Aujourd'hui, la masterclass de Pénélope Bagieux avec Victor Massé de l'Épinay.
Nous ouvrons donc cette masterclass avec Pénélope Bagieux. Le principe de cette collection est d'essayer de comprendre comment un ou une artiste travaille concrètement, comment s'élabore une œuvre depuis l'idée de départ jusqu'au moment où l'artiste considère que cette œuvre est achevée et même jusqu'à sa réception. Je vais vous présenter très brièvement Pénélope Bagieux. Vous êtes autrice de bande dessinée. Vous êtes passée par les Arts décoratifs de Paris et le St. Martin's College of Art and Design à Londres. Et en 2007, vous avez lancé un blog, le blog de Pénélope Jolicoeur, intitulé « Ma vie est tout à fait fascinante ». Vous y racontiez des pages de votre quotidien et ce blog a tapé dans l'œil d'un éditeur, Jean-Claude Gavsevitch, et a donc été repris en album. À partir de là, vous avez créé le personnage de Joséphine, collaboré avec quelques scénaristes comme Boulet ou Johan Sfar, et raconté la vie de Mama Cass, la chanteuse du groupe The Mamas and the Papas, avant de lancer pour le site du Monde dans de vous lancer dans une série de portraits de femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, c'est culotté puisque c'est ainsi que vous les avez baptisées. Vous ont valu une reconnaissance internationale avec des traductions dans 17 langues, une adaptation en dessin animé et c'était l'été dernier au dernier Comic Con de San Diego, l'été 2019, un Eisner Award. En 2020, vous adaptez en bande dessinée l'un des plus grands auteurs de littérature jeunesse, Roald Dahl. C'est une première, il n'avait jamais été adapté en bande dessinée. Et vous vous y attaquez avec Sacrée Sorcière. Vous nous direz peut-être comment ce choix s'est fait. En tout cas, c'est un livre qui avait véritablement et profondément marqué votre enfance. Quand vous l'aviez lu, je crois que vous aviez 8 ou 9 ans. Alors, l'enfance, c'est peut-être justement par là qu'on va commencer. Est-ce que avant ou après Sacrée Sorcière, les histoires, c'était déjà quelque chose d'important pour vous? Est-ce que l'art en général était quelque chose d'important dont vous pensiez peut-être pouvoir faire votre vie? Autrement dit, c'est une question rituelle de ces masterclass de France Culture pour commencer. Est-ce que vous croyez à la vocation, Pénélope Bagieux?
Alors j'étais entourée de livres quand j'étais petite, beaucoup, parce que j'avais une maman qui aimait énormément les livres illustrés, le dessin de presse et les belles images en général. Et tous ces livres étaient stockés dans ma chambre, donc j'avais un accès illimité. Donc je pouvais passer effectivement des heures dans les livres, mais pas tellement dans les mots. C'est-à-dire que je lisais pas de texte en fait. Je pensais que j'aimais pas trop lire. Et c'est vrai que ce qui m'a fait me rendre compte qu'en fait si j'aimais bien lire, c'est Roald Dahl. Voilà. C'est-à-dire qu'une bibliothécaire m'a collé dans les pattes Charlie et la chocolaterie. Et un jour où j'étais coincée à la maison parce que j'étais malade et que je pouvais pas aller à l'école et que j'avais vraiment rien d'autre à faire puisque j'étais interdite de télé, j'ai lu Charlie et la chocolaterie en une journée et j'ai adoré. Et donc quand je suis revenue voir la bibliothécaire pour lui dire ok, j'avoue ça c'est vraiment super bien, elle m'a suggéré de lire Sacrée Sorcière et ça vraiment j'ai encore plus aimé. Et je me suis rendu compte que j'aimais lire, mais que j'étais aussi contente de le re-raconter après aux gens. J'aimais bien en fait raconter des histoires, que j'aimais bien être portée par un récit, mais que ce que j'aimais encore plus, c'était la manipulation qu'on exerce quand on raconte les histoires, que j'aimais bien tenir les gens en haleine, quoi. Donc je sais pas si c'est une vocation, mais j'ai toujours trouvé du charme à l'idée de tenir les gens en haleine.
Et si auparavant ce n'était pas les mots qui vous attiraient dans les livres, on suppose que c'était les images ou les dessins, est-ce que c'était des bandes dessinées, est-ce que c'était des livres illustrés ou est-ce que c'était aussi des beaux-arts, des livres d'art, des catalogues d'exposition, que sais-je?
Non, c'était des livres pour enfants, ce qui, je pense, explique ma fascination pour les livres pour enfants encore maintenant, donc fascination que je partage avec ma mère, hein, visiblement. Et je trouvais, voilà, ça pouvait m'occuper pendant des heures, en fait, de regarder des dessins et de les recopier, parce qu'autant j'aimais pas tellement lire, enfin, du moins je pensais que j'aimais pas trop lire, et clairement j'écrivais peu, mais je dessinais tout le temps, et je dessinais des histoires, en fait, c'est-à-dire que je dessinais pas du tout... Enfin, je suis passée très vite de dessiner la maison avec les fleurs et le soleil dans le coin en haut à gauche, à imaginer un multiverse complexe avec des races et des sous-races, quoi. C'est-à-dire que ça a tout de suite été très sérieux, quoi. Il fallait que je dessine un truc très élaboré, et j'avais un projet de, ok, ce week-end, je vais avancer un peu mon univers, mon histoire, mon truc. Donc, voilà, j'aimais vraiment bien dessiner. Ça me tenait vraiment compagnie à 100%. Je me souviens très clairement que quand j'étais petite et que j'avais par exemple une boîte de feutres, mais même les feutres qu'on achetait au Carrefour, quoi, la boîte de 12 feutres avec des feuilles blanches, j'avais des picotements d'excitation et d'impatience parce que je me disais que j'allais être occupée pendant des heures et que surtout, enfin tout était possible, c'était, je sais pas, on parle d'angoisse de la page blanche, moi j'ai toujours eu l'excitation de la page blanche, quoi. Ça m'a toujours donné hâte en fait. Et après, oui, c'est sûr que c'était aussi un refuge dans le sens où, plutôt les livres que le dessin, mais les livres, ce qui m'a toujours plu dans les dessins et par la suite dans la peinture même et dans les images en général, c'est quand ça a l'air mieux que la vraie vie. Enfin, quand il y a des tableaux devant lesquels on se dit, j'aimerais mieux vivre là-dedans, en fait, que.
Vous pensez à qui? Ou à quel tableau?
Je sais pas, j'ai l'impression de citer toujours la même chose, mais. Un peintre comme Odilon Redon, je trouve que les couleurs d'Odilon Redon sont vraiment, vraiment mieux que la vraie vie, par exemple. C'est que ça a l'air vraiment mieux. Voilà. Et c'est le point commun, je pense, de tous les peintres que j'aime bien, et tous les courants de peinture que j'aime bien. Et ça, en fait, ça s'applique aussi à l'illustration, par exemple, aux vieilles illustrations russes, et d'ailleurs à la peinture russe. C'est des couleurs qui me donnent envie de vivre dedans.
Billy Bean ou des gens comme ça?
Ouais.
Qui illustrent voilà,
par exemple.
Et est-ce que, de même que les histoires que vous avez aimé raconter, parce que vous voyez qu'elles vous donnaient une sorte de pouvoir sur les gens, est-ce que la découverte du pouvoir du dessin aussi, d'être celle qui dessine, ça vous a donné à l'école, au collège, peut-être après, un statut social,
on va dire ? Ah, ça rend cool, c'est sûr, d'être celle qui dessine bien. Surtout quand on sait bien dessiner les profs et qu'on peut faire des trucs marrants. Ben, ça, oui, ça m'a apporté une petite forme de prestige. Assez limité dans le temps quand même, mais un peu. Après, c'est quand même un truc de marginal de dessiner, parce qu'en général, les enfants arrêtent de dessiner à peu près quand ils rentrent au collège. Ça devient un truc de bébé. Donc, mais ceux qui continuent à dessiner se reconnaissent entre eux. On est ceux qui dessinent bien, on se fait des poignées de main secrètes et tout ça. Donc, ça m'a bien accompagnée. Et puis après, moi, très vite aussi, je me suis débrouillée pour être dans des cercles d'amis et de gens où on était très portés sur l'imaginaire. On avait quasiment que des loisirs qui tournaient autour de ça, donc c'était très valorisé le fait que je dessine. Ouais.
Alors vous évoquiez la caricature des profs, c'est une forme de dessin, la caricature peut-être plus qu'une autre, qui nécessite d'avoir non seulement une main qui marche bien, mais aussi un œil qui sait voir les choses saillantes dans un visage, dans une attitude. Votre œil, vous l'avez exercé après ces livres pour enfants que vous regardiez, est-ce que vous continuiez à exercer votre œil et dans quel support artistique?
Est-ce que je continue?
Vous avez parlé de la peinture, est-ce
ouais.
que le dessin animé, le
jeu
vidéo,
dessin animé, ouais.
La bande dessinée?
Alors c'est vrai que j'avais mon amour d'enfance, c'est plus le dessin animé que la bande dessinée, puisque... On l'aura remarqué, je n'ai toujours pas parlé de bande dessinée depuis le début, parce que je n'aimais pas tellement ça quand j'étais petite, et j'en lisais pas. Mais en revanche, je regardais vraiment des heures de dessins animés tous les jours. Je suis de la génération Club Dorothée, Youpi, l'école est finie, donc j'ai vraiment passé ma vie devant une télé. Vraiment, littéralement, chaque heure où j'étais pas à l'école ou en train de dormir, j'étais assise par terre devant une télé, donc... Voilà, c'est vraiment ça que j'ai dessiné en premier aussi, que j'ai recopié. Du coup, c'était naturellement ce que je pensais vouloir faire. Et après, j'ai fait des études de cinéma d'animation, avec toujours, dans un petit coin de mon cœur, le Club Dorothée, je pense vraiment, hein, en me disant que c'était ça, c'était là-dedans que j'arriverais le mieux à concilier mon envie de raconter des histoires, mon envie de dessiner, et puis l'espèce de mélange des deux qui est... observer les gens, observer le mouvement, observer les micro-mouvements de petites choses, de remettre une mèche. Et je pense qu'en fait, ça m'a beaucoup servi dans la bande dessinée après. Quand on apprend à dessiner, quand on est par exemple en école d'art, le conseil que donnent toujours les profs, c'est de dessiner tout le temps d'après réel. Et ça peut paraître hyper chiant parce que on se dit ah mais non moi j'ai envie de faire mes histoires, faire mes trucs. Et en fait c'est vraiment la meilleure école de dessiner d'après réel. Typiquement de se faire 40 portraits dans le métro, dans un carnet. Moi j'avais un carnet de métro vraiment. Donc en général les gens quand ils se rendent compte qu'on est en train de les dessiner, tout d'un coup ils changent un peu d'attitude. Mais tant que les gens ont pas remarqué qu'on les regardait, Il y a tellement de choses à apprendre en regardant et en ayant 40 secondes pour saisir quelque chose de quelqu'un. Je trouve que c'est vraiment la meilleure école. Donc je pense que c'est ce que j'aime vraiment bien faire aussi, c'est repérer comment les gens se grattent le nez, quoi. Ça, souvent, ça dit beaucoup de choses.
Alors, vous aviez commencé par le cinéma d'animation, vous l'avez dit, dans vos études. Pourquoi vous avez basculé et comment vous avez basculé?
Bah, du coup, j'ai jamais vraiment commencé dans le cinéma d'animation, puisque j'ai arrêté aussitôt que l'école.
Un dessin animé dans le cadre de vos études?
Oui, j'ai fait un film de fin d'études dans le cadre de mon diplôme, qui n'a pas été non plus un brillant succès, donc
voilà. Nous n'en parlerons pas.
Mais de toute façon, je pense que dans ma tête, la messe était dite, parce que j'avais compris ce qu'allait être mon métier si vraiment je faisais ça. Et ça m'intéressait pas du tout. Pour plusieurs raisons. La principale étant qu'il allait falloir travailler en équipe. Et que ça, c'était hors de question. J'avais déjà bien cerné à l'époque que ça allait poser problème. Et que surtout, j'allais rien contrôler. Et en fait, c'est quand même, si on revient à la raison pour laquelle j'aime bien raconter des histoires au début, en fait, j'aime quand même vraiment bien le contrôle, quoi. Et l'avantage quand on fait de la bande dessinée, c'est qu'on fait tout. Donc, tant qu'à faire, j'aime bien le côté un peu dieu de faire une BD. Voilà.
Donc, on va revenir un peu sur ce côté démiurgique et multitâche de l'auteur de bande dessinée. Mais avant ça, puisqu'on termine un peu ce moment de l'apprentissage, la question du style. À quel moment est-ce que on trouve son style et on dit, quelque part, je m'arrête sur ce style qui va progresser sans doute, mais c'est comme ça que je dessine. C'est plus vraiment du croquis de métro. Enfin, j'imagine que quand on est étudiant, on essaye beaucoup de styles de dessin, en s'inspirant sans doute de tel ou tel. Pourquoi est-ce qu'à un moment, on se dit, ce style-là, c'est celui qui me correspond, qui exprime ce que je veux exprimer?
Mais moi, je pense que son style, on le trouve à 3 ans et demi. Hein. Vraiment, c'est que, en fait, on le choisit pas du tout. On peut essayer, effectivement, des détours, et puis ils viennent de toute façon enrichir... un peu par hybridation la façon dont on dessine, mais on n'a pas tellement le choix de la façon dont on dessine. Moi, il y a des choses que je dessine encore exactement comme quand j'avais 6 ans, quoi. Donc ça vient se perfectionner, et puis dans mon cas ça vient s'arranger un peu avec de l'apprentissage technique, puisque j'ai pris des cours. Donc au lieu de dessiner au feeling et de me dire tiens, c'est marrant, les lignes elles vont toutes un peu dans le même sens, et ben un jour j'ai eu des cours de perspective et puis c'était waouh, c'était ça en fait. Et voilà, mais globalement je dessine pareil depuis que je suis petite, je trouve que ça se voit quand je regarde mes dessins d'enfant, quoi. Il y a des choses que je sais toujours pas dessiner exactement comme quand j'étais petite et que j'évite toujours.
C'est ça. Alors vous dites que vous progressez encore sur quoi est-ce que vous pouvez encore progresser, sur quoi est-ce que vous avez envie de progresser?
J'aimerais bien dessiner les pieds mieux, parce que vraiment j'en ai marre de devoir toujours trouver des pirouettes dans l'histoire pour qu'on voit pas de pieds, quoi.
Mais les pieds des sorcières, ils sont faciles à dessiner.
Et c'est pour ça que j'aime ce livre.
Voilà, ils ont pas d'orteils.
Ils n'ont pas d'orteils, spoiler. Ben, je pense dans l'audace, en fait. Par exemple, une des choses, quand je me suis dit que j'allais adapter Sacrée Sorcière, qui a failli être un frein, mais très vite, je me suis raisonnée en me disant, n'aie pas peur, c'est que je me suis dit, ah oui, il va falloir faire des décors hyper fouillés, des cadrages hyper compliqués, puisque donc, un autre spoiler, mais à partir de la moitié de l'histoire, les héros sont des souris. Donc on est très bas et tout est immense et tout est... Et donc je savais que ça allait être quand même un peu un défi de dessin. Et... moi, jusqu'ici, je m'étais toujours débrouillée pour être un peu dans des huis clos. Et je trouve que, en fait, à chaque livre, se dire, il faut pas que mes limites techniques m'empêchent de raconter l'histoire que j'ai envie de raconter. Il faut se lancer et pas trop tordre l'histoire pour pallier à mes lacunes. C'est-à-dire, oui, effectivement, c'est pas toujours mon fort, j'en sais rien, les super grandes perspectives, les décors hyper riches. Mais là, vraiment, ce serait dommage pour l'histoire de me priver de ça. Donc, il faut. Et donc, je pense que je me suis perfectionnée, surtout sur les choses que j'ose faire, en me disant, peut-être que cette perspective sera un peu casse-gueule. Peut-être que quelqu'un qui s'y connaît vraiment dirait, elle est pas droite, cette rue. Mais en fait, il le faut pour l'histoire, donc allons-y.
Alors la bande dessinée, c'est du dessin, mais c'est aussi raconter des histoires. Je le disais tout à l'heure en introduction, vous avez commencé par raconter votre vie, qui était tout à fait fascinante. Vous avez mis en image, ou collaboré avec des scénaristes. Je citais Joanne Sfar, je citais Boulet. Vous avez raconté la vie de vos femmes extraordinaires, adapté maintenant Roald Dahl. Finalement, à part Cadavre exquis, que je n'avais pas cité, qui était une fiction que vous aviez inventée, c'est beaucoup, le travail du scénario, c'est pas une matière originale. Vous vous inspirez, vous adaptez, vous illustrez. Comment est-ce que vous abordez cette question dans les choix de vos projets? Est-ce que vous avez plein d'histoires en tête que vous devez faire, mais les projets s'accumulent ou se succèdent? Ou est-ce que raconter des histoires, c'est pas votre fort? C'est une question un peu provocatrice.
Alors si, je pense que raconter les histoires, c'est mon fort.
Les histoires des autres, que vous racontez très bien, mais...
Oui et non, parce qu'en fait, c'est une ossature. Typiquement, une biographie, c'est vraiment la meilleure façon de raconter une histoire qu'on invente en s'appuyant sur des éléments réels. Mais clairement, California Dreaming, c'est pas une biographie. C'est-à-dire, j'ai des éléments, et après, moi, je raconte l'histoire comme j'ai envie. Dans les culottés, c'est exactement la même chose. Il y en a certaines pour lesquelles j'avais 4 lignes d'infos. Et après, c'est à moi de raconter une histoire. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est un confort de se reposer sur une base, une colonne vertébrale à laquelle je peux me fier et me dire, voilà, c'est une histoire qui, elle est bonne ou elle est mauvaise, mais en tout cas, elle est réelle. Donc, j'ai pas à la transformer. Après, à moi de broder, et ça va au-delà de la broderie, de raconter l'histoire comme j'ai envie. Mais pour répondre à votre question, j'adorerais avoir milliers d'histoires dans ma tête et pas le temps de les faire, mais pas du tout. J'ai pas du tout des milliers d'histoires dans ma tête d'avance. Mais souvent, un petit bourgeon de quelque chose dont j'entends parler, qui me donne une idée, devient vraiment une obsession, au point que je finis par faire un livre pour l'évacuer, mais il n'y a pas de moment où je me dis... À un moment ou un autre, il y a quand même cette histoire que j'aimerais raconter. Ça marche pas du tout comme ça pour moi. Malheureusement, j'aimerais bien, mais...
Donc l'idée de départ vous arrive de ces petits bourgeons?
2 heures avant, vraiment.
2 heures avant.
Ah ouais, vraiment.
Pour Sacrée Sorcière, c'est, je crois, l'éditeur qui vous a proposé?
Ouais. Sacrée Sorcière, heureusement, j'ai eu un peu de temps pour réfléchir, parce que légalement, c'était pas si simple, mais... Oui, c'était une proposition de... Bah, déjà,
des héritiers? Des descendants de la
Roald Dahl Estate, qui avait envie d'une adaptation en bande dessinée, qui s'est tournée vers mes éditeurs, Gallimard, qui eux-mêmes après me l'ont proposé, donc un heureux concours de rebond. Et puis ensuite, moi, la partie où j'étais un peu active quand même dans cette histoire, c'était de proposer que ce soit Sacrée Sorcière l'adaptation, et pas un autre roman de Dahl.
Et pour les culottés, puisque on imagine que vous avez eu, après le succès du premier tome, un nombre de, enfin je sais pas, peut-être des propositions, des gens qui vous ont dit, tiens, est-ce que tu connais cette femme? Il y en a plein, des femmes extraordinaires, vous en avez choisi 30. Qu'est-ce qui présidait au choix de telle ou telle?
Eh ben, exactement ça, la joie de la raconter à chaque fois, exactement comme quand on a des blagues qu'on aime bien raconter parce qu'elles marchent toujours. Moi, ces femmes-là, à chaque fois que j'en parlais à des gens, ils disaient, oh, c'est fou. Et je retrouvais ce petit sentiment de puissance à nouveau d'être Dieu, quoi, de me dire c'est génial, je parle de choses dont les gens n'avaient pas entendu parler, en plus je raconte bien ce que je veux, personne ne vérifie, et je le raconte comme je veux, c'est-à-dire que si moi j'ai envie d'en faire une femme qui a tel genre de réaction et tel caractère, parce que finalement c'est comme ça que moi je réagirais, et qu'au final on parle quand même toujours de soi, bah les masques, et ben je me suis dit très bien, ça veut dire que elle on la garde. Quand on me suggérait des noms, puisque ça a été beaucoup le cas, et notamment parce que c'était prépublié par Le Monde, donc évidemment que j'avais des propositions de noms par des gens, et c'était super cool d'ailleurs, c'est pour ça que c'était chouette de le prépublier. C'est arrivé 2 fois sur les 30 que ce soit des suggestions de gens, parce que je trouvais que l'histoire elle était vraiment super, et que je trouvais que ça, c'était pas tant pour ce qu'elles avaient accompli, mais parce que je trouvais qu'il y avait vraiment une histoire dans l'histoire, quoi.
Alors c'est pas la même chose de raconter la vie d'une femme en 10 pages ou en 250, comme vous l'avez fait pour Mama Cass, par exemple, la chanteuse de The Mamas and the Papas. Est-ce que à partir du moment où vous vous emparez d'un sujet, vous dites ça, je vais le faire, donc avec les toutes choses égales par ailleurs entre les culottés et des grands livres comme ça, est-ce qu'il y a un temps avant de se lancer dans le dessin, dans l'écriture, avant de prendre son crayon, j'allais dire, est-ce qu'il y a un temps où on doit commencer par savoir, par organiser dans sa tête le récit, découper en grandes séquences? Comment est-ce que ça marche avant de se mettre à sa table?
Moi, j'arrive pas à dessiner directement. Je suis admirative des gens qui font ça. Déjà parce que ça me rassure d'avoir un plan. Et puis ensuite, la première mouture de ce que je fais, c'est une espèce de mélange de texte et d'image où j'avance scène par scène. Je réfléchis en même temps parce que j'essaye de vraiment me souvenir comment j'ai fait par exemple pour Sacrée Sorcière. J'en sais rien. Par exemple, je me dis, dans cette scène, c'est hyper important qu'il y ait ça et ça et ça qui se passe. Si en plus ça pouvait se passer dans tel endroit, ça me permettrait de déjà placer ça, qu'on voit cette personne-là qui doit revenir plus tard. Donc j'ai une somme de choses à caler dans la scène et je fais un petit pas, c'est-à-dire que je me dis on écrit juste cette scène, voilà. Donc je l'écris et je l'écris avec c'est un mélange de dialogue, de flèches, de bonshommes bâtons, de c'est complètement illisible. Mais moi je voilà comme ça c'est posé et je me dis et voilà fin de la scène, c'est bon, c'est coché, j'ai mis tout ce que j'avais à mettre dans cette scène, je peux réfléchir à la suivante et j'avance que par petites étapes comme ça. Et ensuite, et c'est là où c'est la partie vraiment super, je pense, dans la bande dessinée, je pense qu'on la retrouve dans rien d'autre, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, c'est le moment où je fais, le mot qui est le plus proche, c'est un storyboard, même si ça n'a rien à voir avec un storyboard de cinéma, c'est le moment où je dessine entièrement mon livre, de manière un peu brouillonne, mais c'est déjà mon livre final, c'est-à-dire que les expressions de visage, les dialogues, les cadrages, le découpage des pages, etc., est définitif. Et j'ai mon livre, voilà. C'est en général sur ce document-là aussi qu'on travaille avec mes éditeurs, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut encore intervenir, bouger des trucs, parce que clairement, si on veut me bouger des trucs une fois que j'ai dessiné tous mes décors, je n'aime pas. Mais tant qu'il y a écrit, entre parenthèses, derrière il y a une foule, c'est pas grave si on la change à ce moment-là, cette case. Et quand ça c'est fait, et que je suis sûre que ça c'est terminé, alors commence la partie qui est la plus longue et la plus... détendu en fait, puisqu'il n'y a plus aucune réflexion vraiment, et il n'y a plus que du plaisir de dessin, et donc toute la journée je dessine en suivant vraiment ma feuille de route, c'est-à-dire que j'ai à côté de moi mon petit PDF de mon livre moche en gros, et page par page tous les jours j'avance, et voilà, et je sais exactement où je vais, et alors ça c'est un repos incroyable, voilà.
Alors ce livre moche, restons un peu dessus, vous venez de nous dire que l'éditeur avait un rôle, c'est-à-dire que c'est un travail... on imagine solitaire pour une part, mais vous avez besoin d'avis extérieurs. Vous le montrez à votre éditeur, vous le montrez peut-être à des proches. Vous vérifiez que les choses marchent avec eux, les choses peuvent encore beaucoup bouger à ce moment-là.
Ouais, alors avec des proches, non. Honnêtement, c'est une étape que je montre pas, en fait. Parce que d'expérience, je suis beaucoup trop vulnérable à ce moment-là. Et que je n'ai besoin que de critiques qui sont même pas des critiques, qui sont de la co-écriture, hyper constructive, et de quelqu'un qui sait exactement ce que je veux raconter, c'est-à-dire pas quelqu'un qui a aucune idée de ça et qui me dit juste son avis de lecteur, parce que ça, à ce stade-là, je m'en fous vraiment d'un avis de lecteur. J'ai besoin qu'on m'aide à accoucher de l'idée que je me fais de mon livre, et quelqu'un qui l'a très bien compris dès le début et qui sait où je vais peut me dire vraiment cette scène, je t'assure qu'elle te sert à rien, par exemple. Mais je connais aussi des auteurs qui ne veulent pas entendre parler du regard de leur éditeur avant la fin. J'en connais plein pour qui c'est de l'ingérence et c'est vraiment une agression d'avoir un retour parce que c'est leur livre et qui veulent pas de l'avis des gens. Donc ça dépend.
Quitte à devoir retravailler après.
Quitte à pas retravailler, quitte à dire c'est mon livre et c'est tout.
Éditer sans éditeur. Alors.
Éditer à la française comme on dit, c'est-à-dire accompagner, diffuser, imprimer, mais pas forcément. Ce qui est, bon, après c'est un autre sujet, mais ce qui est du coup hyper intéressant quand on compare avec le travail d'éditeur des autres pays, quoi. C'est que ça se passe pas du tout comme ça aux États-Unis, et alors encore pire au Japon où on a carrément des consignes de l'éditeur. Mais en France, enfin, je connais beaucoup d'auteurs qui vraiment veulent pas entendre un mot de l'éditeur avant la fin.
Je reste encore sur cette première étape du livre moche. Vous nous avez dit, Pénélope Bagieux, que déjà dans ce livre moche, les personnages étaient posés avec leurs expressions, c'est-à-dire qu'ils ont déjà leur identité graphique. Mmh. Et alors, vous évoquez aussi la question du grand découpage par séquence et la question du rythme. Il y a un rythme particulier dans un gros livre de bande dessinée comme celui-là. Il y a des scènes d'action qui alternent avec des moments de dialogue. Et puis aussi, parfois, des pleines pages, une pleine page sur une façade de maison, ou un personnage en pied, en pleine page. En l'occurrence, je pense à cette sorcière qu'on voit de haut dans un arbre. Comment est-ce que vous décidez de faire des moments de respiration comme ça? Une pleine page, c'est aussi pour le lecteur l'occasion de se reposer un peu, de regarder un peu plus en détail un dessin et non pas une séquence. Comment est-ce que ça vient, ces moments-là?
En général,
le sens du rythme, disons.
Ouais, c'est plus la pleine page après avoir tourné, c'est l'équivalent en termes sonores de c'est quand même ça, c'est de faire voilà. Donc quand il voit la sorcière en bas de l'arbre en pleine page, clairement c'est pour ça, c'est pour qu'on se dise voilà. Donc
mais la page avec la façade et le petit garçon qui regarde par la fenêtre, elle est sur la page de droite.
Ouais.
C'est plutôt
un doublé chuchoté, c'est pour répéter quelque chose, pour en rajouter une couche. C'est quand la grand-mère lui dit c'est vrai, c'est pas juste. ce n'est pas juste. Et donc on l'envoie une deuxième fois. Et il y a aussi le plaisir du dessin que moi j'adore dessiner des baraques et des façades. Donc je me suis dit, ça suffit de les dessiner en grand comme ça. Je veux une page où je les fasse super grandes. Donc il y a une partie un peu dessin. Mais le rythme, de toute façon, c'est des choses que je pensais être magiques quand je lisais. Et après, j'ai compris qu'en fait, non, il existait des méthodes, qu'il faut bien choisir ce qui se passe avant qu'on tourne la page, qu'il faut bien choisir ce qui se passe à la première case quand on tourne, qu'on peut faire durer le temps sur une case en mettant du texte, même en mettant des bulles vides, qu'on passe plus de temps sur une case où il y a une bulle avec trois points de suspension que sur une case où il n'y a pas du tout de bulle. Parce que, en fait, et moi la première, quand on lit une longue séquence dans laquelle on ne parle pas, ben on la lit très très vite et on regarde pas très bien les détails parce qu'il n'y a pas de texte et qu'au bout d'un moment, notre œil il est plutôt attiré par le texte. Donc il faut ruser, en fait, pour... toujours pour manipuler le lecteur.
Et alors tout ça, vous l'avez appris. Vous nous disiez tout à l'heure que le dessin animé vous avait formé et que vous le sentiez aujourd'hui dans votre travail. Mais pour la bande dessinée spécifiquement, aujourd'hui, vous avez l'œil de celle qui en fait. Donc vous continuez à apprendre en lisant tel ou tel confrère, tel ou tel consoeur, enfin d'autres collègues, à trouver des trucs ici ou là sur ces questions de rythme, sur ces questions de construction, sur ces questions de cadrage.
J'arrive pas à... ça existe forcément, il y a forcément une perméabilité entre ce que je lis et ce que je fais, mais j'arrive pas à la voir. C'est que j'ai l'impression que je suis vraiment une je dissocie complètement par exemple ce que j'aime lire ne ressemble pas à ce que je fais. Et bien sûr que je me dis "Oh, c'est trop beau, j'aimerais trop savoir dessiner comme elle", mais j'ai pas l'impression que ça m'influence vraiment, peut-être ah, c'est sûr d'ailleurs, inconsciemment. Après, il y a certaines règles qu'on m'a énoncées vraiment clairement, qu'on m'a dit attention, si tu veux qu'il se passe tel truc, il faut faire ça. C'est-à-dire que très scolaire, quoi. Mais je ne sais pas à quel point. Peut-être qu'en fait, ça saute aux yeux ce que je prends chez les autres, et qu'il y a des gens qui doivent peut-être même dire que je pompe leur travail complètement. Je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression que ça m'influence tant que ça.
Alors dans ces masterclass de France Culture, on s'intéresse aux conditions tout à fait concrètes et matérielles de la création. Alors c'est le moment de s'y intéresser. Je ne sais pas par quoi commencer, peut-être le lieu. Où est-ce que vous travaillez, Pénélope Bagieux ?
En fait, chaque livre a eu un peu une histoire géographique et temporelle liée à quelque chose de la vie pour moi. Il y a eu des livres que j'ai fait assise dans mon atelier avec mes copains d'atelier sans en bouger pendant un an et que j'ai vraiment vu toutes les saisons par la fenêtre en faisant ce livre. Il y a eu des livres, California Dreaming, je l'ai fait pendant que je partais m'installer aux États-Unis, donc avec des tonnes de papier, de crayons et des bombes de lac. C'est vraiment je l'associe à ce truc-là. Sacrée sorcière, je l'ai fait rapidement quand même et pendant la promotion des culottés qui a été interminable, même si c'est vraiment un problème de riche de dire ça, mais j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de promotions pour les culottés, et notamment à l'étranger. Et donc j'ai passé beaucoup de temps dans des avions et des trains et des hôtels et des... Voilà, donc je l'ai fait sur iPad, et j'ai pas eu d'unité de lieu pendant un an, à part le livre. C'est vraiment, c'est le seul axe fixe de l'année que j'ai eu l'année passée, c'était que je faisais ce livre, mais je l'ai fait partout.
Donc il a été entièrement dessiné sur tablette,
oui.
C'est déjà une question que j'allais vous poser.
Oui, oui.
Et le livre moche, il est dessiné avec un
pareil.
Crayon,
non,
sur
pareil.
Tablette aussi,
ouais.
Tout. Et depuis longtemps, vous travaillez sur, par exemple, California Dreaming.
California Dreaming, c'est du crayon.
C'est du crayon.
Ouais. Ça, les culottés, c'était du Photoshop sur ordinateur normal. Et je suis passée encore à l'étape d'après avec Sacrée Sorcière en me mettant sur une tablette carrément. Et ça, c'était super parce que j'ai découvert l'itinérance, ce qui n'était pas le cas avant, et c'était quand même assez cool.
Et alors ça change, j'imagine, beaucoup de le rythme du travail, aussi de pouvoir travailler en fait sur une tablette. Vous travaillez 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là.
On peut vraiment mettre à profit chaque minute.
Ouais. Le temps est vraiment découpé comme ça.
Ouais, c'est de se dire, peut-être pas quand les spectacles qu'on va voir sont ennuyeux, mais limite quoi. C'est que j'ai vraiment
Est-ce qu'il y en a qui dessinent dans la salle peut-être en ce moment? Non.
De me dire j'ai un vol de 12 heures. Cool, 12 heures, je vais pouvoir faire 10 pages, quoi. C'est que j'ai vraiment gratté chaque... Mais bon, j'avais des délais assez débiles aussi pour ce livre. Sinon, je ne l'aurais peut-être pas fait comme ça, mais...
Des délais débiles, c'est-à-dire trop court, trop serré?
Non, parce que j'ai réussi, mais c'était un défi quand même. Ça faisait partie des trucs compliqués du livre.
Et c'est différent de travailler, puisque vous l'avez fait un an sur un livre en étant collé à sa table et à sa chaise. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que... est-ce que vous voyez, quand vous regardez votre œuvre terminée, une énergie, est-ce que vous voyez quelque chose des conditions matérielles de la création ?
C'est difficile de le déconnecter du souvenir. C'est que moi, je me souviens où j'étais et je trouve que ça se sent. Je me souviens aussi dans quel état d'esprit j'étais et je trouve qu'il y a certaines pages qui vraiment le transpirent de ça. Mais je pense qu'il n'y a que moi qui m'en rends compte. Non, ce qui était chouette, c'était que du coup, ça m'a apporté quand même une vraie diversité d'idées de couleurs, je pense, d'architecture, typiquement, voilà, un truc tout simple, l'hôtel dans lequel ils sont. J'avais pas vraiment d'idée d'hôtel. Je savais que je voulais un truc un peu faussement luxe et un peu mauvais goût, quoi.
Voilà. Un peu défraîchi.
Ouais, mais qui soit à la fois, qui soit exactement ce que c'est censé être, c'est-à-dire un casino à Brighton, quoi. C'est-à-dire, c'est Las Vegas, mais sur la côte anglaise. Et je cherchais quel genre d'hôtel c'était, et je me disais, j'aimerais bien un truc un peu marbre moche, palmier en plastique et tout. Et pile à ce moment-là, c'était une semaine où j'étais en Floride, dans un hôtel exactement comme ça. Et du coup, c'était super, parce que je l'avais sous la main, et j'ai pu, enfin, chaque plan de l'hôtel dont j'avais besoin, j'allais juste dans l'hôtel et je l'avais sous le nez. Et clairement, j'aurais jamais imaginé ça en restant à mon ordi dans mon atelier, quoi.
Donc, avec votre tablette sur les genoux, au milieu de la foule, au milieu dans un train qui bouge en Russie, vous travaillez partout, pas besoin de silence, pas besoin de rituels particuliers.
Alors surtout pas besoin de silence, vraiment, parce que autant pour cette fameuse phase du livre moche. Silence complet, aucun contact avec des êtres humains, tout me perturbe et en plus c'est assez physique cette partie-là, c'est-à-dire qu'il faut se mettre dans des états pas possibles, il faut jouer le livre en entier, il faut vraiment beaucoup réfléchir, ça m'épuise. Quand je fais cette partie-là, je m'endors tous les soirs comme si j'avais fait un marathon, je suis vraiment fatiguée et j'ai besoin d'être seule. Mais ensuite toute la partie où je dessine, où j'ai qu'à suivre la route, quoi. Au contraire, là j'ai besoin surtout de pas être dans le silence, de pas être seule. C'est un livre que j'ai dessiné quasiment entièrement en écoutant des podcasts pour avoir une compagnie, quoi. Donc non, au contraire, là j'ai besoin d'agitation.
Alors la bande dessinée, c'est du dessin, du texte, mais c'est surtout le mélange des deux, où c'est une écriture en dessin. Est-ce que quand on dessine, ça prend quand même un certain temps, c'est-à-dire que le trait du crayon, matériellement, pour faire une case, ça prend, je ne sais pas combien de temps. D'ailleurs, je parle des cases terminées, enfin une page terminée, par exemple, de Sacrée Sorcière. Il y en a des plus compliquées que d'autres, il y a des grandes pages, mais c'est combien de temps de travail ? Vous avez dit que vos délais étaient très serrés.
Je faisais 3 à 5 pages par jour.
3 à 5 pages par jour du livre beau.
Du livre beau. Voilà. Après, il y a des cases, je savais que j'allais y passer une semaine. Voilà, faut que j'allais avoir voilà, il y a quelques cases dans le livre où ça cassait un peu la règle des 3 à 5, mais une double page moyenne avec surtout du dialogue, quand même une case où je me suis un peu cassé la tête parce qu'il en faut une sur chaque double page, c'est la règle de Lewis Trondheim. Voilà, un peu de décor, un peu d'ombre. Ouais, 3 cases, 3 pages.
Et est-ce que c'est important, par exemple, de pour le livre moche, c'est devenu un concept.
Hein. Ça y est, je suis très fière d'avoir lancé ce truc.
Pour le livre moche et pour le livre beau, est-ce que c'est une écriture dans l'ordre de l'histoire ? Est-ce que vous prenez la scène d'ouverture, oui, et vous allez jusqu'à la fin, et dans la partie livre beau où vous reprenez les dessins, c'est dans cet ordre-là ?
Alors la partie livre moche, dans l'ordre absolu, en sautant jamais rien. Et là, par exemple, il y a une partie que j'ai faite à la fin, qui est mélangée au début parce que je la gardais pour la fin quand j'avais fini tout le livre et ça n'a jamais quitté mon esprit une seule seconde pendant tout le temps où j'avançais, c'est que je me disais oui, tu en es page temps sur temps, mais n'oublie pas qu'à la fin t'auras pas terminé parce qu'il faudra refaire un truc du début, et c'était une angoisse, c'est comme si on était le week-end et que je savais que j'avais pas fini mes devoirs et que dimanche soir arrive, quoi. Donc il faut vraiment que je sois super linéaire dans cette phase là sinon ça m'angoisse. En revanche, pour la partie appelons-la le livre beau, j'aime bien, pour la partie livre beau, au contraire, je commence pas par le début parce que sinon je trouve que ça se voit, les premières pages elles sont moches, il faut noyer les premières pages quelque part dans le premier tiers. Et les vraies premières pages, faut les refaire à la fin, quand on a la main bien chaude, ça roule tout seul. Parce qu'il faut que les premières pages, elles soient très belles. On peut pas avoir un personnage qui est un peu moche pendant 20 pages au début. Si c'est page 47, personne s'en rend compte. Mais page 1, on se fait, il a vachement changé de tête, non, d'une case à l'autre, donc.
Mais c'est quand même des séquences entières.
Ouais, ouais, c'est des séquences
entières. C'est pas un bout, une case là, une case ailleurs.
Non. Non, mais pour des raisons d'angoisse. C'est-à-dire que j'ai besoin le soir en me couchant de vraiment comme un prisonnier qui raye les trucs, de me dire 147 sur 304. Et si je me dis, enfin 147 moins la page 58, il faudra revenir sur la 82. Moi, je dors plus en fait. Il faut que je puisse me dire c'est bon, je suis la liste et j'avance, parce que c'est très long.
Mais cette première phase très longue et qui semble vous angoisser aussi, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était la phase la plus réjouissante.
Il y a deux joies différentes que j'aime autant. Il y a vraiment le moment où tout se décide et où on peut inventer tout ce qu'on veut et on a des vrais choix à faire. Et puis en plus, particulièrement pour celui-là, il y a des scènes que j'avais hâte d'écrire. Donc c'est un moment très exaltant, mais c'est très exaltant, c'est très intense. La partie où on dessine, elle est très peu intense, mais elle est en permanence une petite joie qui dure tous les jours. C'est-à-dire que c'est trop cool tous les matins de se lever pour dessiner des pages d'une histoire qu'on a écrite. C'est génial parce que c'est très satisfaisant de voir le résultat, toujours. C'est peut-être complètement vain de dire ça, mais moi j'adore à la fin, tous les jours, regarder ma page que j'ai finie et faire « Ah !» Et c'est très satisfaisant. Et puis c'est le moment où on vient quand même placer les trucs chouettes, quoi, qu'on va dessiner tous les petits détails qu'on n'avait pas fait avant. C'est deux joies que j'aime vraiment autant et c'est pour ça que je pense que je suis vraiment fondamentalement pas faite pour travailler avec des scénaristes. En vieillissant, je commence à vraiment en être sûre maintenant. C'est que quelle tristesse de me priver d'un de ces deux trucs. Et alors, écrire une histoire pour quelqu'un d'autre la dessine, n'en parlons pas. Alors là, vraiment, c'est une torture pour moi, quoi. À quoi bon me priver de tout ce que j'aime? Mais c'est vraiment deux choses que j'aime autant.
Et cette joie de la fin d'une page, le soir, est-ce que c'est une joie qui est lucide? Est-ce que une semaine après...
Le lendemain matin même, on la regarde.
Quand on la regarde, on a toujours la même joie, ou est-ce que la nuit est passée, ou une semaine, ou à la fin, quand le livre peut-être même est achevé, est-ce que quand vous regardez tout, il y a des choses qui vous déplaisent, il y a des choses qu'il faut reprendre?
Alors il y a des choses qui finalement, c'est pas tant sur le dessin, c'est plus sur le rythme global. On regarde que par petits morceaux, et régulièrement, de toute façon, je me fais des relectures depuis le début pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais non, en général, tant que je reste dans le show, si je fais une pause de 3 semaines, c'est sûr que les pages que je vais faire au bout de 3 semaines après avoir fait une pause vont être pourries. C'est certain. Si j'ai pas dessiné pendant 3 semaines, ça refroidit, c'est vraiment un muscle. Et les pages pour m'y remettre, la reprise est douloureuse, quoi. C'est moche pendant, pratiquement autant de temps que le temps pendant lequel je me suis arrêtée. C'est vraiment très très laborieux comme retourner au sport après trop longtemps sans y être allée, quoi.
3 semaines sans dessiner, c'est donc 3 semaines de vacances, par exemple. Ça peut arriver pendant.
Ouais, alors moi, ça fait un bon moment que ça m'est pas arrivé de faire une pause de 3 semaines, mais oui. Ou alors quand je suis malade, ce qui m'est arrivé une fois pendant que je faisais le livre, et j'avais hyper hâte de me remettre à bosser, mais c'est tellement énervant et frustrant quand on se remet à dessiner, puis ça vient plus. Enfin, je sais pas s'il y en a qui dessinent dans la salle, mais c'est tellement tellement frustrant de se dire ah, il me faut 15 traits pour avoir le bon, et puis quand à la fin je regarde ma page, elle est moche. Enfin, c'est vraiment ça me met en rage, quoi. Et à la fois j'ai l'habitude. Donc je sais que c'est pas grave et qu'en fait dans 2 jours ça ira mieux et qu'il faut juste réchauffer un peu. Mais du coup plus on avance dans le livre, mieux on dessine. En fait, on va de plus en plus vite, c'est assez exponentiel. C'est quand ça fait 6 mois qu'on dessine tous les jours un personnage et qu'en fait c'est assez facile la fin. Donc c'est de plus en plus agréable.
Mais quand vous êtes sur un livre et qu'il y a des pauses, alors quand on est malade c'est autre chose, mais des moments de vacances, est-ce que vous pouvez dessiner dans le même temps autre chose, avoir la main qui dessine d'une façon, est-ce que vous continuez à crobarder, à croquer un tel ou tel, ou est-ce que tout. Quand vous êtes dans un livre...
Oh là, pas du tout. Non, parce que si je suis en vacances, c'est que je veux vraiment être en vacances, donc je dessine pas, hein, parce que ça reste du travail. Et parce que sinon, ça m'énerve, je me dis, mais plutôt que de dessiner, qu'est-ce que je vais aller faire un carnet de voyage alors que je pourrais avancer mon livre, quoi. Quel temps perdu. Donc, et puis non, mais surtout, au-delà du devoir et de la discipline, en fait, quand je suis en train de faire mon livre, j'adore le faire. C'est-à-dire que je parle de vacances, mais elles sont assez forcées, en fait. C'est que j'ai pas du tout envie de faire autre chose que mon livre quand je suis en train de le faire. Les vacances sont longues, en fait.
Comment est-ce qu'on décide qu'un livre va être en noir et blanc ou en couleur, puisque vous avez fait les deux et vous allez sans doute peut-être continuer? Est-ce que c'est l'éditeur qui décide?
Bon, non, sûrement pas.
J'ai dit un roman, voilà. Attention.
Non, ça dépend de l'histoire. J'en ai fait qu'un en noir et blanc.
C'est vrai, donc c'était California
ouais,
Dreaming.
C'est California Dreaming. C'était pas mal. C'était alors déjà parce qu'il y avait le plaisir du crayon à papier, et je savais que passer à l'étape très noire, bien clean avec de la couleur, j'allais perdre tout ce que j'avais aimé faire dedans. J'aimais bien l'aspect un peu brouillon.
Toutes les textures.
Ouais, et puis même les petites traces de doigts, les patouilles, je trouvais que c'était assez cool. Et aussi, il y avait besoin d'avoir une unité de temps, parce que l'histoire, elle va quand même des années fin 40 à 60. Et les voitures, les coiffures, les fringues, tout ça sont très caractéristiques des époques. Et du coup, j'avais pas envie que les scènes qui sont dans les années 60 soient avec des couleurs psychédéliques et machin. Enfin, ça me disait rien. Je trouvais ça bien qu'il y ait une unité par le noir et blanc. Et puis, c'est un super défi le noir et blanc, parce que dire autant de choses qu'avec de la couleur, ça demande de vraiment se casser la tête et de bien réfléchir, suggérer. Le froid, la lumière, avec juste du noir, c'est assez cool.
Et alors pour Sacrée Sorcière, la couleur, c'était une évidence depuis le départ ?
Ouais, parce que quand même, les pour enfants, je me suis demandé ce que moi j'aimais lire quand j'étais petite. Bah oui, de la couleur, plein de détails, des décors où il se passe un million de trucs. Il faut qu'on puisse passer du temps sur chaque case. Après, c'est vrai que j'ai d'abord entièrement dessiné en noir et blanc, et qu'il y avait des choses qui fonctionnaient super bien comme ça, très brutes, graphiques, noir et blanc, très franc et tout. Et je savais qu'elle allait avoir de la couleur derrière. Il y a certaines pages où je me disais que c'était dommage, mais en fait, encore une fois, comme c'était pour les enfants, pas du tout dans le sens je dénigre et les enfants ils peuvent pas apprécier le noir et blanc, c'est pas ça. Mais je trouvais ça pas assez, je trouve pas d'autre mot que gourmand. Mais c'est très beau, les parties pris graphiques très francs, un peu on se la joue expressionniste et tout, c'est super, mais c'est pas marrant à regarder en fait. Les sorcières, on a envie qu'elles aient des perruques de toutes les couleurs, des robes avec plein de motifs. En fait, c'est quand même ça qu'on a envie de voir. Donc
le livre beau a été fait en noir et blanc, et je crois que c'est pas vous qui avez fait les couleurs de votre livre.
J'ai pas fait l'exécution des couleurs à mon grand désespoir, puisque je n'avais pas le temps. Je me suis entourée enfin, je sais pas pourquoi je dis entourée, vu qu'elle est une personne, donc je me suis pas entourée, je me suis associée. Enfin, elle m'a entourée de ses bras, si on veut, je sais pas. D'une coloriste dont j'adore le travail et avec qui je travaille très bien, parce que c'est très simple quand on travaille ensemble, qui s'appelle Drac, avec qui j'avais déjà travaillé pour exactement les mêmes raisons par le passé, de panique, de me dire, il reste 3 mois, comment je vais faire? Et elle est toujours très réactive. Et en fait, moi, j'avais des idées très très précises de ce que je voulais. Comme couleur pour tout, en fait, je savais qu'elle, j'avais déjà décidé toutes mes couleurs, mais j'avais physiquement pas le temps, donc je lui ai fait quelques pages dans le livre, voilà. Et après je lui ai dit, maintenant il faut le décliner sur 300 pages, donc voilà, tu as le violet des cheveux de la grand-mère maintenant, c'est parti, il faut le faire 5000 fois. Donc elle m'a vraiment, j'aurais pas pu faire le livre en fait sans elle, donc je la salue, voilà.
Et découvrir le livre entièrement colorisé, c'est...
Ah, c'était génial, parce que du coup, elle m'envoyait les pages au fur et à mesure, et je voyais ça sur mon téléphone pendant l'été. Et quand elle m'envoyait un texto, elle me disait « Regarde, j'ai mis sur la Dropbox les pages temps à temps ». Et vraiment, j'avais hâte d'avoir 5 minutes sans personne, en me disant « je vais lire mon livre ». Et tout d'un coup, c'était réel. En fait, c'était plus mes dessins, c'était un livre. Et il y avait aussi plein de choses qui me sautaient aux yeux à ce moment-là, malheureusement. Je me disais, ouais, mais cette scène, ça va pas du tout. Mais c'est la dernière étape. Donc, c'est hyper excitant de voir ces couleurs.
On a évoqué un petit peu votre carrière, Pénélope Bagieux, depuis ce blog de Pénélope Jolicoeur jusqu'à Sacrée Sorcière. Il y a eu différents projets. Vous avez évolué, vous nous avez dit que travailler avec un scénariste, ce ne serait a priori plus votre voie. Est-ce que, quand vous regardez votre œuvre, vous y voyez une cohérence, une évolution ? Est-ce que vous aimez appréhender ce que vous avez fait comme un bloc ?
Ce serait compliqué, vu que j'ai rarement fait 2 livres dans la même thématique d'affilée.
Ouais. Mais est-ce que vous connaissez peut-être des liens secrets, justement, que nous, on ne connaîtrait pas, entre vos projets ? Est-ce qu'un projet appelle le suivant par réaction ou par
voilà, il y a de ça. Il y a un projet rejette le suivant, c'est-à-dire parce que j'ai fait les culottés, je ferai plus de biographie, je le sais. Parce que j'ai fait Sacrée Sorcière, ça m'amuse plus tellement d'adapter un livre. Voilà, donc il y a ça. Et c'est quand même généralement motivé plutôt par une envie assez immédiate de un truc. J'ai envie de faire ça, alors je le fais. La cohérence que j'y vois, c'est que je trouve que j'affine ce que j'ai envie de faire. C'est que je regrette pas du tout les livres que j'ai fait avant, mais j'ai tellement appris en les faisant, je suis tellement partie DVD, pourquoi pas, ok, essayons, j'en lis pas trop, je sais pas, on va voir. Et alors qu'en fait, évidemment que j'en ai, en fait, quand j'étais petite, quand j'étais ado et même quand j'étais jeune adulte, par exemple, j'ai toujours eu ce que j'ai fait après sur mon blog, c'est-à-dire des espèces de journaux de ma vie, mais où je le faisais en dessin parce que ça me paraissait beaucoup plus simple. Et pourquoi s'embêter à écrire quand on peut dessiner? Et les livres que je faisais quand j'étais petite, c'était des histoires en dessin avec des personnages qui se parlent dans des bulles. Donc, bon, en fait, j'en faisais déjà de la BD, mais c'est tellement compliqué de mettre une étiquette dessus et se dire, si, si, c'est de la BD, ça. Hein. Et, en fait, on n'est pas obligé de passer toutes les mêmes étapes dans le même ordre. Que je trouve que ça, j'affine ce que j'ai envie de faire. Et l'exemple des scénaristes, par exemple, moi, j'ai beaucoup appris en travaillant avec des scénaristes. En plus, j'ai eu deux expériences très différentes parce que c'était vraiment deux collaborations qui sont passées pas du tout de la même manière pour faire des livres qui avaient rien à voir. Et puis, le rapport que j'avais avec eux était vraiment pas le même. Et c'était parfait à ce moment-là. Et en fait, ça m'a vraiment amené à me dire qu'est-ce que j'ai aimé dans cette expérience? Où est-ce que j'ai eu des frustrations? Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je me dis, ça, j'ai plus envie de faire comme ça, ça non plus. Et j'ai l'impression que j'élague au fur et à mesure. Et que du coup, je sais que quand je serai une vieille dame, par exemple, je ferai des livres que je trouverai super. Je dirais, voilà, c'est exactement les livres que je voulais faire. Et ça avance chaque fois vers ce qui m'intéresse. Et ben comme en fait dans la vie, en dehors du travail. C'est-à-dire que plus on avance, moins on se fait emmerder par des choses annexes et on sait à peu près ce qu'on veut. Donc c'est valable dans les livres aussi. Bah si, globalement, en tout cas, on n'a pas toujours la possibilité, mais on le sent. On se dit, tel type de personne, j'ai plus du tout envie de les fréquenter, par exemple. Tel genre de couleur ne me va pas. Enfin, il y a plein de choses qu'on gagne avec l'âge, en fait. Et c'est pour ça que c'est si cool d'avoir 40 et de plus en avoir 20, je trouve. Et puis aussi, on se dit beaucoup moins, est-ce que je vais être à la hauteur de ça? Est-ce que, en fait, la seule question qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai envie de passer 2 ans de ma vie à faire ça tous les jours? Donc, on fait des meilleurs choix quand on est guidé par ça, je pense, que par est-ce que c'est mon style, est-ce que les gens vont pas prouver que... Bon. Quand on se dit, en vrai, tous les jours pendant 2 ans, il vaut mieux avoir vraiment envie quand même. Donc, plus je vieillis, plus c'est ça ma boussole, en tout cas, et je trouve que ça sent dans les livres.
En tout cas, quand vous serez une vieille dame, vous ferez des livres, vous aurez fait des livres toute votre vie, vous n'imaginez pas faire autre chose?
Ah, je suis sûre que si. Moi, je suis sûre que l'abstraction de plus en plus va m'amener à faire des trucs. Mais vraiment, j'ai toujours ça comme une blague, mais je suis sûre que quand je serai une vieille dame, je ferai des peintures monumentales et du land art, quoi. Je suis sûre que je me dirais, ah, je suis un peu sortie du cadre du livre, maintenant, j'ai envie de m'exprimer, je peindrai avec mon corps et tout. Je suis sûre que quand je serai vieille, ce sera fini. Mais pas du tout pour, genre, aller vers le cinéma ou des trucs comme ça, mais pour aller faire des trucs super bruts et avec encore moins de cadres.
Mais l'envie viendra plus tard, pour l'instant elle n'est pas là. Vous avez l'idée
non,
de l'envie.
Non, j'aime bien faire des livres là pour l'instant.
Une question qu'on pose toujours dans les masterclass de France Culture, le rapport au succès, le rapport aux critiques, le rapport peut-être d'abord au public, puisqu'on est ici en public à la BNF. Vous avez commencé par le blog, donc le blog c'est quelque chose qui est en prise avec le public, avec immédiatement les réactions. Aujourd'hui vous faites souvent et parfois sans doute des séances de dédicaces très longues. Est-ce que c'est important pour vous de parler avec vos lecteurs, d'entendre leurs avis?
Oui, alors moi j'ai eu un rapport un peu différent de ça, même à l'époque du blog, parce que j'avais un blog sans commentaires, ce qui est quand même intéressant. J'aimais bien l'idée de montrer, mais j'avais pas du tout envie de savoir ce que les gens en pensaient. J'aimais bien l'idée que ce soit plus comme un miroir sans teint, voilà. C'est-à-dire que je faisais mon truc en sachant que des gens voyaient, mais je voulais pas qu'ils existent vraiment les gens. Je voulais pas, même si c'était gentil ce que disaient les gens, mais en fait ça me paralyse. Et de la même manière, maintenant quand j'écris un livre, j'essaye de m'imaginer que les gens ne le liront pas parce que ça m'aide et que je le fais pour moi, parce que sinon plein d'autres choses rentrent en compte et j'ai pas besoin de ça. Donc j'aime bien les interactions limitées. Après, pour ce qui est des séances de dédicaces, très honnêtement, il y a eu un petit ventre mou à une époque où vraiment. C'était une extension du travail, parce que c'est quand même du temps, c'est de l'énergie, c'est souvent très à la chaîne quand même. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà allé à Angoulême par exemple, mais bon, c'est assez intense. Et j'avais vraiment juste l'impression que c'était de l'énergie en plus que je devais fournir pour faire le job, quoi. C'est-à-dire, bon bah c'est ce que tu dois aux gens, tu dois leur signer leur livre, c'est comme ça. Et donc j'y allais quand même un peu à reculons. Enfin pas à reculons, c'est pas vrai, mais bon c'était... il faut le faire, quoi.
Voilà. C'est le travail.
C'est le travail, et c'est vraiment rien de plus que le travail. Et je pense que c'est vraiment les culottés qui m'ont réconciliée avec la dédicace, parce que, en fait, je me suis mise à partager vachement plus de choses avec les gens. Et ce sera un peu ma minute gnangnan, mais...
On l'attendait.
Oui. Vas-y. Oui, il y en a toujours une. Hein. Vraiment, les choses que les gens bon, les gens, arrêtons, les femmes, hein, on va le dire, les lectrices m'ont dit, quand je les ai rencontrées, et je les ai beaucoup rencontrées pour les culottés, je me suis dit, ok, en fait, on m'offre vraiment quelque chose d'extrêmement précieux. Le fait que les gens me disent à quel moment de leur vie ils ont lu ce livre, éventuellement ce qu'ils ont aimé, ce que ça a pu leur apporter comme réflexion différente, qui me partagent des expériences de vie, parfois des choses hyper dures que les gens me racontaient, sur des moments où ça les avait aidés. Ça, plus le fait d'avoir des petits qui viennent aux dédicaces et qui et dont les parents me disent, il le lit tous les soirs en fait, hein, et vraiment, et on l'a offert à tous les cousins et toutes les cousines, et les petits enfants disent, elle est hyper connue, c'est Katia Kraft, on la connaît, tu vois. Quand même, j'ai fini beaucoup de dédicaces en pleurant, voilà, parce que c'est quand même, je me disais, putain, j'ai quand même tellement de chance. C'est-à-dire que je vais pendant 2 heures écouter des gens qui vont me dire qu'ils ont adoré mon livre et que c'est un livre qui est important pour eux. Et en fait, j'ai trop de chance, vraiment. Ça m'a fait ça, et donc j'ai de nouveau dit oui aux séances de dédicaces avec plaisir et aux rencontres scolaires et tout ça, parce qu'en fait, ça. Il y avait des moments où même moi ça me portait, quoi. C'est-à-dire que j'ai des moments où je me disais, putain, j'en ai marre. En plus, c'était vraiment une promo longue et je me demandais un peu pourquoi je faisais ça. Et en fait, tout d'un coup, ben voilà pourquoi on fait ça. En fait, c'est tout con, mais parce que je repars chez moi après la séance de dédicace avec des dessins de petits qui ont dessiné les culottés avec leurs petites mains là, toutes maladroites, qui m'ont dessiné les culottés. C'est trop mignon et je vais le garder toute ma vie et c'est super. Et du coup, ça m'a relancé, quoi. J'étais hyper contente. Et maintenant, du coup, je l'ai fait avec plaisir, les dédicaces. De nouveau. Et c'est un moment que je trouve hyper agréable. Et par exemple, à Angoulême, pour revenir dessus, soit on peut se dire, c'est de l'abattage. Soit on peut se dire, c'est marrant, en fait, il y a des gens que je vois tous les ans. C'est toujours les mêmes, en fait, qui reviennent. Et du coup, je me souviens d'eux. Et du coup, en fait, ils sont tellement sympas. Ils reviennent tous les ans, en fait. Et du coup, ils me tiennent au courant des trucs. Enfin, c'est quand même.
De la dernière dent tombée.
Non, c'est pas de quoi
de la dernière dent tombée ou de la varicelle du petit.
J'ai une super histoire d'un lecteur à Angoulême comme ça que j'adore. C'est mon et vraiment si une année il vient pas, je serais extrêmement inquiète. Vraiment, il est parce qu'il est un peu âgé, mais il est là tous les ans, et il me tient au courant de sa vie. Et en plus, sa vie c'est vraiment Dallas. Il y a des rebondissements de dingue. Cette année, quand il est venu et que je lui dis alors quoi de neuf, il m'a dit. Eh ben, fraîchement fiancée. Je dis, mais c'est pas possible! Ce mec a une vie de dingue et je l'adore. Et il y a une petite, c'était vraiment une petite gamine qui est venue la première année où j'ai dédicacé les culottés et qui voulait le monter en pièce de théâtre avec sa classe, avec les filles de sa classe. Et elles l'ont fait et chaque année elle est revenue. Et là maintenant, leur truc, il est genre, c'est une tournée régionale, ils le montent dans d'autres collèges, etc. Je leur ai fait leur affiche. Enfin, c'est quand même, c'est pas pour dire des histoires qu'on n'entend que en dédicace, mais ça sert quand même à ça, quoi. Sinon, c'est super de faire des livres et c'est une joie très égoïste et elle me suffirait potentiellement. Mais le deuxième volet de ça, oh là là, qu'est-ce que c'est. Il y a pas beaucoup de métiers où on a cette joie-là quand même, je pense.
Alors il y a une autre reconnaissance, c'est la reconnaissance des critiques, la reconnaissance des institutions. La vie des culottés n'est pas terminée. Les livres évidemment se vendent encore, mais vous êtes passé à Sacrée Sorcière, disons à un moment où cet été, à l'été 2019, vous avez eu le prix Eisner. Ça a été un moment vraiment important pour vous, la reconnaissance des professionnels, la reconnaissance des autres auteurs de bande dessinée aussi que vous connaissez, et la reconnaissance par les récompenses, les prix. C'est quelque chose qui compte pour vous ?
Rétrospectivement, presque un an après, le Eisner, ça a été la reconnaissance des médias, et c'est tout. En fait, ça change vraiment rien du tout. Ça apporte aucune autre reconnaissance que celle-là. Mais ça enfonce un peu un clou, quoi. C'est que les gens disent, dis donc, alors, avec la formule désormais consacrée, l'équivalent de l'Oscar de la bande dessinée. Alors que pas du tout, en plus. Mais bon, bref. Oui, ça met une.
Je ne l'ai pas dit. Hein.
Non, et je vous en remercie. Mais bon, oui, ça fait sérieux, quoi. Ça fait une ligne de CV sérieuse, voilà. À part ça, c'est un souvenir merveilleux. C'est vraiment un petit bonbon dans mes souvenirs que je me repasse dans ma tête parfois, parce que c'était vraiment ces 5 minutes-là étaient incroyables. Et c'était super, et en plus c'est un très beau trophée, il est chez moi, il est très beau et tout ça. Mais ça apporte quand même pas grand-chose d'autre, j'avoue. Un autocollant sur la couverture des culottés désormais. Mais en fait, Moi, j'ai pas tellement eu de reconnaissance institutionnelle tellement avec mes livres. J'ai eu un vrai succès critique et un vrai succès public. Et en fait, c'est quand même ça le plus important. Le succès, la reconnaissance institutionnelle, elle peut aider à rencontrer le public. J'avais pas besoin. Et donc voilà. Mais je pensais que ça allait me faire beaucoup plus plaisir que ça et que ça allait changer ma façon de considérer mon travail, d'avoir ce genre de truc. Et en fait, pas du tout. Ça change vraiment rien du tout. Mais c'était génial et j'étais trop contente. Et quelle soirée incroyable. Pour le coup, c'est pas l'équivalent de l'Oscar, mais je pense que c'est le plus proche de ce que peut avoir dans sa vie un auteur, de ce qui ressemble un peu aux Oscars, parce que on est super bien habillé, puis on est à des tables devant une scène, et puis ils ouvrent une enveloppe, on monte sur scène, il y a du champagne. Bon, c'est quand même assez proche des Oscars d'une certaine manière, mais du pauvre. Mais bon, c'est quand même proche des Oscars. Et c'était vraiment une nuit géniale.
Une dernière question pour cette masterclass. On termine généralement par ça. Vous avez distillé au fil de cette conversation quelques conseils pour les jeunes qui voudraient se lancer dans la bande dessinée ou dans une carrière artistique en général. Est-ce que vous avez un conseil à donner? Alors, on donne pas le même à des enfants de 10 ans ou à des étudiants en art de 20 ou 25 ans. Mais qu'est-ce que vous aimez dire aux gens qui vous demandent des conseils si ça existe?
Je trouve que c'est toujours compliqué de donner des conseils quand ça marche bien pour nous. Parce que qu'est-ce que... croyez en vos rêves et accrochez-vous. Ouais. Plus facile à dire quand ça marche, c'est sûr. Moi, un truc qui m'aurait fait gagner du temps, donc ça vaut ce que ça vaut, c'est qu'il n'y va pas y avoir de moment où je vais avoir une validation, un feu vert, et c'est bon, maintenant t'es auteur. Ça n'arrive pas. Voilà. Il n'y a pas de moment où on a ça, on n'a pas un diplôme d'auteur. On peut vendre beaucoup de livres, et pour autant, on est pas 100% considéré que... En fait, il n'y a pas de moment où ça va arriver, donc il ne faut pas du tout attendre ce moment-là pour oser des choses. Par exemple, moi, je connais beaucoup de gens qui ont encore du mal à dire qu'ils sont auteurs, qui disent « oui, bah... » Et puis, ils font toujours un peu de l'autodérision, ils disent « oui, quand je dessine mes petits Mickey et tout ça. » Non, en fait, il n'y a pas une frontière où d'un côté, il y a des auteurs qui sont des gens sérieux et confirmés, et de l'autre, il y a nous, en fait. À partir du moment où on exprime des choses par écrit ou en dessin, et qu'il y a des gens qui ont envie de le lire, c'est bon, on est auteur. Et vraiment, qu'est-ce que j'aurais gagné comme temps si au lieu de me dire dans quelques années, quand je serai réellement auteur, en fait, non. Voilà. Donc, faut pas perdre de temps à attendre une validation qui n'arrive jamais. Voilà. Je préfère vous le dire. Voilà. On n'a pas de pins d'auteur un jour.
Merci beaucoup, Pénélope Bagieu, pour cette masterclass.
Merci.
C'était la masterclass de Pénélope Bagieu avec Victor Massé de L'Épinay. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Pascaline Bonnet. Prise de son Yvan Charby, Stéphane Foulon. Coordination technique Francesca Fossati, réalisation Clotilde Pivin.